Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cet épisode a été enregistré sur une place de Lons-le-Saunier pour les journées du patrimoine et du matrimoine. On a été invité par Mathilde Villain et l'association La Grappe à enregistrer les mamies lédoniennes. Vous verrez, parfois on entend des enfants qui rigolent, le vent qui se lève et des voix autour. J'étais simplement dans une caravane avec mon micro et les mamies. Bonne écoute!
Fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Roselyne.
Ça commence fort, voilà un qui pleure. Bah bon, c'est la vie en
mais
même temps.
Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Et vu qu'on enregistre sur une place, c'est ça aussi
on
qui est trop
sur une place, Louise Michel.
Ça en jette.
Oh là là. Ah mais j'ai pas besoin de lunettes, moi, du coup.
Roselyne, c'est un rayon de soleil jurassien. J'ai échangé avec elle sur sa vie, sa carrière et ses choix. Nous n'avions pas encore eu de femmes actrices vivant de leur passion tout en étant mère sur ce podcast. C'est un récit unique et touchant. Bonne écoute.
Le tout début. Alors, je m'appelle Roselyne et je suis une comtoise puisque je suis née à Besançon le 12 août 1952.
Ensuite ?
Alors, j'ai vécu à côté de Besançon, dans un village à côté, à Rochelet-Beaupré, pendant 20 ans, avec mes parents et mes frères et sœurs. Et puis, après, j'ai vécu à Besançon jusqu'à la quarantaine. Mais je partais beaucoup en voyage, donc je bougeais pas mal. Et après, je suis venue m'installer dans le Jura, parce qu'un jour, je suis tombée amoureuse d'un jurassien.
C'est la meilleure raison.
Exactement.
Et votre petite enfance, elle ressemblait à quoi?
Alors, j'ai quelques souvenirs. Et moi, j'habitais dans un village donc, mais c'était un village, c'était au bord de route de la nationale, et on n'avait pas de jardin, on n'avait pas, donc moi j'ai des souvenirs d'être assise sur l'escalier de la porte d'entrée, de marche, et je suis assise et je regarde la vie qui passe, et je regarde en face, parce qu'il y a un troquet. Il y a autrefois dans les villages, il y avait plein de cafés. Quand j'étais gamine, en tout cas, il y avait beaucoup de cafés. Et en face de chez moi, il y en avait un. C'était chez la Grignette. C'était le surnom du monsieur qui tenait ce bar. Et j'ai plein de souvenirs là des hommes qui parlaient entre eux, puisque évidemment, c'était surtout fréquenté par les hommes. Mais j'ai un souvenir extrêmement particulier. J'ai une histoire qui me vient. Je resitue 56-57. Il y avait dans le village un monsieur qui était algérien. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être dans le village deux habitants qui étaient algériens. Et c'est terrible ce que je vais raconter, mais c'est ce monsieur, les autres l'appelaient le Bougnoul. Et moi, j'avais 3-4 ans et je voyais ce monsieur. Et puis, je l'appelais le Bougnoul parce que je croyais que c'était son vrai nom. Pour moi, c'était son nom. Alors, je lui disais « Coucou Bougnoul, coucou Bougnoul ». C'est incroyable, hein. Je lui parlais, je pense que j'avais de la tendresse pour ce monsieur parce que je voyais que les autres avaient un certain mépris.
Et vous aviez des frères et des sœurs ?
Oh, j'en ai plein. C'est la folie. Nous sommes 9 enfants. Famille très nombreuse et je suis l'aînée. Waouh !
Et qu'est-ce que ça fait, ça ?
Des responsabilités. Oui, des prises de responsabilités parce que ben, on part à l'école avec les petits frères et sœurs. On va à l'autre bout du village, à l'école, et il faut avoir l'œil sur les autres.
Donc en fait, très jeune, vous êtes occupée des plus petits, quoi.
Oui, j'ai fait un peu comme la maîtresse d'école, quoi. Faire les devoirs aux autres, aider. Oui, j'ai fait ça. On est toujours allé à l'école laïque dans le village.
Et vous êtes allé à l'école jusqu'à quand ?
Alors moi, en fait, je suis allée à l'école jusqu'au bac. Je suis allée au lycée et après le bac, j'ai travaillé. Parce que j'avais pas les moyens de faire des études. Enfin, c'était assez compliqué parce que j'étais... non seulement nous étions 9 enfants, mais je suis une fille d'ouvrier. Ma mère, évidemment, restait à la maison, sans doute. Et mon projet, c'était d'avoir un job, de travailler le plus tôt possible et d'être une femme autonome. Ça, c'était très important pour moi quand j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, j'ai tout de suite travaillé après le bac. Et puis après, j'ai repris des études de théâtre puisque j'ai fait le conservatoire. Je pense que très jeune, bon d'abord j'ai eu envie de faire mon métier dès l'adolescence. Donc je savais où je voulais aller, mais il fallait que j'attende d'avoir la majorité pour aller vers ce que je voulais parce que je n'avais pas le droit de le faire avant. Donc c'était, il fallait, donc ça c'était important pour moi aussi, l'autonomie pour aller vers ce que je rêvais de faire.
Et vous vouliez faire quoi ?
Comédienne, ce que j'ai fait, ce que je continue à faire.
Et comment vous avez su, dans un petit village, que vous vouliez être comédienne ?
Ah, alors ça, c'est incroyable. Au départ, j'ai pensé que c'était parce que j'avais assisté à une pièce de théâtre, Mon cul sur la commode, là, un vaudeville, et que ça m'avait amusée. Mais en réalité, je me suis souvenue de plusieurs choses qui correspondent aussi à ma préadolescence et donc au moment où j'ai choisi.
Et votre papa, il était ouvrier, c'est ça ?
Oui.
Et du coup, vous aviez accès, enfin, vous alliez voir des pièces, des choses comme
Alors,
ça ?
Alors ça, c'était avec l'école. Parce que mes parents, si mes parents ne nous emmenaient pas voir, ni dans les musées, ni dans les spectacles, mais il y avait quand même dans le village un cinéma, il y avait le théâtre amateur, donc de temps en temps, on avait accès à quelque chose qui pouvait ressembler à ça, on va dire. Et puis, nous, on était actifs, c'est-à-dire qu'on allait à la gym, à la chorale. Mmh. Donc, on avait une vie sociale, finalement, assez riche. On partageait plein de choses avec les gens du village.
Et donc, du coup...
Alors là, préadolescence. Ouais, préadolescence. Mmh. Alors, il y a deux choses dont je me souviens. Et je pense que ça a été elles ont été les deux des déclics pour mon choix. Ça se passe au collège. J'étais dans un collège, j'étais interne. Il y avait une directrice. On disait la directrice, elle était hyper sévère. On en avait une trouille. On n'osait pas lui adresser la parole. C'était... Je connais des filles qui ont quitté l'école parce qu'elles étaient traumatisées par cette directrice. On dit maintenant principale. Alors, un jour, on fait du théâtre. On joue une pièce à l'intérieur du collège. Et donc, je me rappelle, la petite fille aux allumettes qui mourait sur scène. Enfin, le grand jeu. Trop, j'adorais. Et à la fin, elle vient. Tac, 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 tac. Elle marche comme ça, sympa, hyper saccadée, militaire. Et elle dit, petite Sarrazin. Alors, moi, je suis là... Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans ? Elle dit, vous avez du talent. Point. Elle s'en va. Ça, si vous voulez, ça marque. Enfin, je veux dire, quand on est une gamine de 12 ans. Bon. Et puis après, à l'époque, J'allais tout le temps en colo. Aussi, voilà, quelque chose qui était très sociabilisant. On allait en colo, en Vendée, sur une belle île qui s'appelle l'île Dieu. Et c'était génial. Et on y allait un mois. Ouais, et c'était une colo du Jura, qui était créée dans le, enfin, par des Jurassiens là-bas, et qui emmenait les enfants du Jura. Tout de suite après la guerre, il y a eu ça. Donc là-bas, il y avait un... Parce que c'était une colo catholique. C'était donc le diocèse du Jura qui a créé ça. Ça n'existe plus, hein. Les bâtiments existent toujours, mais c'est fini. Eh bien, le directeur était un prêtre. Un prêtre très sympa. À nous, les jeunes, il nous apprenait le théâtre, par exemple, à faire de la photo.
Le curé vous apprenait le théâtre?
Ben, il écrivait des pièces.
Mais des pièces sur la religion ou...
Non! Des histoires incroyables. Je me souviens avoir joué une petite fille dans un château fort qui avait été enlevée. Oui, mais il racontait des choses sympas, même sur l'île-dieu, par rapport au château de l'île-dieu, puisque vous connaissez.
Incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Hein. Et c'est avec lui que j'ai parlé pour la première fois dans un micro.
Ah, devant un micro. Dans les années
parce qu'il
70.
Avait dans les années 60. Alors on allait causer à la radio. Vous voyez, j'avais 12 ans quoi.
Wow.
C'est génial hein.
C'est génial.
Ouais.
Et c'est là où vous avez fait votre deuxième pas sur scène.
Et ben voilà, lui. Alors j'ai fait aussi de l'impro à ce moment-là parce que par exemple, on n'avait rien préparé puis il fallait faire quelque chose absolument devant tout le monde. Alors les autres disaient "Oh ben Roselyne, vas-y toi." J'inventais un personnage comme ça tout de suite et c'est là que j'ai réalisé que j'avais la possibilité, les moyens de faire de l'impro. Ouais, c'est super sympa. C'est des beaux souvenirs. Hein.
Et vos parents, quand vous leur disiez que vous vouliez être comédienne, ils disaient quoi?
Oh, elle est complètement folle, ça va bien lui passer.
Et vous, jamais vous avez dit ça va me passer?
Non. Non, non, ça ne m'a jamais passé. J'ai fait du théâtre amateur dès que j'ai eu 15-16 ans. Et puis après, j'ai fait le conservatoire. Et il y a eu des hauts, des bas, évidemment, hein. Mais ça a toujours été très sympa pour moi et je continue, même si ça fait 10 ans que je suis en retraite. Quand même!
Vous vous arrêtez pas?
Non.
Mais du coup, vous mettre à travailler juste après le lycée, enfin, comment vous l'avez vécu? C'était
super. Parce que j'avais mon autonomie, quoi. Non, mais ça, c'était super important. Prendre un appartement en ville. Je travaillais dans un bureau, c'était pas passionnant, mais c'était pas grave parce que j'avais tous mes week-ends, j'avais mes soirées, j'avais le temps. Et j'ai fait une formation du Conservatoire d'art dramatique à Besançon où c'était cours du soir. Donc je travaillais la journée, j'allais au cours du soir. Mais entre-temps, j'avais fait un enfant quand même. Mais j'ai eu mon fils à 24 ans, 23.
Et donc là, vous rencontrez un homme?
Oui, bien sûr.
Je vous dis, si vous avez un enfant après 3 ans, c'est qu'à un moment...
J'ai rencontré un homme, alors avec lequel je ne suis pas restée très très longtemps, mais en tout cas quelques années, on va dire. Et nous n'étions pas du tout du même milieu. Donc, contrairement à moi, je suis une fille d'ouvrier, et lui, c'était la haute bourgeoisie byzantine. C'était très drôle parce que du coup je n'étais pas du tout acceptée dans la famille, enfin par sa mère par exemple, elle me fréquentait de très loin, le moins possible. Bon, c'était pas grave, je le vivais pas mal, hein. Je trouvais ça ridicule. Pour moi c'était déjà, j'avais passé là-dessus. Les gens qui ont ces a priori, on va dire, les gens qui ont ces a priori, moi... Je les regarde pas, je passe à côté, quoi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'en riais. Déjà à l'époque, j'en ris toujours.
Et comment vous l'avez rencontré?
Alors, je l'ai rencontré chez un copain, dans une soirée, en ville, à Besançon. Et lui, il aimait beaucoup peindre, il aimait beaucoup dessiner, et... Donc c'était intéressant, on avait des points communs. Et puis il aimait aussi le théâtre, il a fait aussi pas mal de théâtre, mais il est resté en amateur. Mais après, pense qu'aujourd'hui, il n'en fait plus du tout. Il y a longtemps qu'il n'en fait plus, lui. Mais on avait quand même tout un réseau de copains ensemble aussi. Ça compte.
Et cet enfant, vous l'aviez, vous disiez, je veux un enfant ?
Moi, j'avais très envie d'avoir un enfant, lui moins. Mais finalement, il l'a bien accepté. Donc ça a été sympa. Et un garçon. Et j'en ai pas eu d'autres après. J'ai pas souhaité en avoir d'autres, en fait. Parce qu'après, je me suis séparée. C'était un petit peu compliqué avec lui, donc j'ai préféré me séparer. Mais ouais, j'ai eu un garçon. Mais j'ai beaucoup de relations avec des amicales, avec des jeunes femmes. Et donc, un jour, il y a une jeune femme qui avait 20 et quelques années, enfin, qui a travaillé avec moi et qui m'a dit, tu sais, je voudrais que tu sois ma mamounette. Mmh. Alors, c'est comme si j'avais une fille. C'est ma fille de cœur. Elle s'appelle Mallory. Et aujourd'hui, elle m'appelle toujours comme ça. Elle vient en vacances vers moi, avec les petits, etc. quoi. Donc, ça me fait deux enfants. Et elle dit mon frère, il dit ma sœur. Ouais, même si elle a des parents, elle a bien des parents que je connais, qui sont super sympas. Mais voilà. Après, je me suis mariée, mais plus tard, nettement plus tard. Et là, j'étais plus question d'avoir un enfant. Mais je pense que, franchement, on ne vit plus la même époque. Et je pense que si aujourd'hui, je n'aurais pas cherché à avoir un enfant. Hein. Je ne pense pas. Aujourd'hui, si j'avais 20, 25 ans, je ne suis pas du tout certaine que je serais attirée par la maternité. Parce que je suis attirée par plein. J'ai fait tellement de choses sympas dans ma vie que ça ne collait pas toujours. C'était toujours pas toujours facile d'être une mère en même temps.
Et comment vous avez fait justement pour faire rentrer le rôle de mère avec toutes les autres choses que vous avez voulu et que vous avez
fait ? En fait, j'ai été aidée par ma mère qui, bien qu'elle ait eu 9 enfants, me gardait mon fils Swan, il s'appelle Swan, me gardait mon fils très souvent, quoi. Très souvent, quand il était petit.
Et donc, du coup, à 24 ans, vous faites le conservatoire.
Après, j'ai fait le conservatoire, voilà. Ça dure 4 années, parce qu'on le fait le soir.
Donc, vous continuez de travailler, en fait.
Ah, ben, j'ai toujours travaillé, d'accord. En fait. J'ai toujours été... Oui, l'autonomie, on en parlait tout à l'heure. Eh ben, j'ai toujours été autonome, parce que j'ai toujours eu un revenu dans ma vie. Oui. C'est bien, c'est très important, je pense.
C'est la base de Simone de Beauvoir.
Voilà, oui. Oui, alors donc, là, j'ai fait les 4 ans. Alors, ça voulait dire que je consacrais beaucoup de temps au théâtre. C'était bien. C'était le soir, c'était le week-end, c'était les vacances. C'est-à-dire, on prend une semaine de vacances pour faire un stage, par exemple. Hein ? Pas pour partir à Saint-Tropez.
Et là, comment vous le vivez à cette époque-là, du coup, d'être maman et de choisir de vivre votre passion pour le théâtre ?
Alors, non seulement je choisis de vivre ma passion pour le théâtre, et je choisis aussi d'être maman. Je me sépare, je souhaite, c'est moi qui décide ça. Donc je me mets sur une brèche, c'est-à-dire je n'ai pas de sécurité professionnelle, je n'ai pas de sécurité financière, je sais que je ne compterai pas sur quiconque. Et là, je bosse, quoi. Je travaille en plus du théâtre, il m'arrive de faire d'autres petits jobs pour compléter, pour avoir assez de revenus. J'ai quand même assez vite le statut d'intermittente du spectacle qu'il existe, en fait. Donc j'ai été une grande partie de ma vie avec le statut, ce qui n'est pas une sécurité, mais qui permet de faire quand même, qui nous permet une certaine liberté pour créer, pour avancer. Ça, c'est important, hein.
Et vous arriviez quand même à profiter de votre enfant ? Il n'y avait pas des moments où c'était trop dur ?
Il y a eu des moments difficiles parce qu'il m'est arrivé d'aller travailler à l'étranger et de ne pas le voir pendant 2 semaines. Et ça, c'était pas évident, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas communiquer facilement. Donc, bon, je le sentais en sécurité parce que je savais qu'il était chez mes parents, qu'il y avait mes frères et mes sœurs. À l'époque, il y en avait encore plusieurs, évidemment, qui habitaient chez les parents. Donc, il avait des tatas formidables qu'il adorait. Donc, ça se passait bien. Mais moi, il me manquait, mais je sais que lui aussi. Je l'ai plusieurs fois dans ma vie remercié parce qu'il avait été extrêmement, on va dire, tolérant, je ne sais pas comment dire, très compréhensif, quoi. Un enfant qui comprend, un enfant qui accepte. Il ne me faisait jamais de reproches.
Il acceptait que...
Que je parte travailler. Il me disait... Oh, tu sais, maman, quand je serai grand, tu ne travailleras plus. Hein, c'est moi qui travaillerai. Bon, il travaille bien, il travaille tout le temps.
Mais vous aussi, vous vous arrêtez pas.
Oui, c'est vrai. Il tient de moi, peut-être.
Hein. Ben, ça, forcément. Et du coup, vous étiez mariée avec le papa de Sven ?
Non, je ne me suis pas mariée. Alors, ça aussi, à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup, hein. C'est la révolution.
Pourquoi c'est la révolution ?
C'est la révolution à la maison, chez mes parents. Enfin, ma grand-mère, ma mère. Bon, ma mère m'a dit, quand j'ai eu cet enfant, sans être mariée, tu vas faire mourir ton grand-père. Et je n'oublierai jamais le visage de mon grand-père quand je suis arrivée avec le bébé dans les bras, chez lui. Il était émerveillé, mon grand-père. Il était heureux, il avait les larmes aux yeux de bonheur. Donc, je ne regrette rien du tout. Je me suis mariée plus tard, avec un autre monsieur donc, jurassien. C'est pour ça que je suis venue habiter le Jura. Mais je ne le suis plus, mais je l'étais, oui.
Je me demandais si c'était une... Si vous n'étiez pas mariée par...
Non, par amour. C'est la seule chose qui pouvait m'inciter à me marier. La seule chose, parce que souvent les gens me disent « Oh, tu sais, ma fille va se marier parce que tu vois bien, là, ça l'arrange, parce qu'ils vont acheter, alors il vaut mieux. » Alors là, moi, ça me sidère. Je suis là, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ces arguments pour se marier ?» Moi, je considère que si on se marie, c'est un choix, c'est vraiment... Si on se marie, c'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on a on a envie d'être ensemble le plus longtemps possible. Voilà ce que je vois pas pourquoi on se justifie, quoi. Je vois pas pourquoi. Mais non, ça m'a... Bon, et puis ça a mal tourné, il y a eu un problème, mais tant pis, c'est la vie aussi. Ça.
Et c'était comment, du coup, cette carrière d'actrice dans le théâtre de...
Au départ, on a tout intérêt à être embauchée dans une compagnie, dans un théâtre. Alors j'avais commencé à Besançon, la scène nationale. J'avais été embauchée à la scène nationale. Ensuite, j'avais travaillé avec Jean-Luc Lagarce, qui est un auteur assez connu, qui était à l'époque, qui vivait à Besançon. Je l'ai connu, il avait 17 ans, Jean-Luc Lagarce. Et puis j'ai travaillé. Alors après j'ai aussi pris de l'autonomie en théâtre, c'est-à-dire que j'ai créé ma propre compagnie à Besançon, une petite compagnie pour faire des choses. Et puis j'ai cofondé, puisque nous étions deux copains, la Ligue d'improvisation théâtrale.
Donc vous continuiez de faire de l'impro?
Alors là, à partir de là, on a fait à fond de l'impro, puisque je me souviens de l'organisation des matchs d'impro internationaux avec les Québécois, les Suisses, les Italiens, les Parisiens, dans la belle salle du Cursaal à Besançon. Et je me souviens aussi des ateliers qu'on faisait pour s'entraîner à l'improvisation, parce que on peut avoir une certaine facilité à improviser, mais improviser théâtralement, ça se prépare, ça se travaille, il faut vraiment faire des ateliers. Je sais qu'il y en a plein qui le font maintenant et qui se débrouillent très très bien. Enfin, ça dépend qui, mais j'en vois en tout cas, qui se débrouillent parfaitement bien.
Et donc vous avez pris un peu cet axe dans le théâtre ?
Alors je l'ai fait un certain temps. Et puis quand je me suis installée dans le Jura, j'ai créé ma compagnie, et qui existe toujours, qui s'appelle le Théâtre de la Petite Montagne, parce que j'étais en Petite Montagne, c'est une belle région, et c'est le premier plateau de la Petite Montagne ici. Et ben, ce théâtre, aujourd'hui, il est fort de plein d'artistes, musiciens, comédiens, amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs, parce que maintenant que je suis en retraite, je fais plein de choses avec des amateurs, mais c'est vrai qu'au départ, c'était seulement des activités avec des professionnels, donc des créations de spectacles.
C'est quoi votre plus beau souvenir de spectacle, d'aventure théâtrale ?
Ouh là là, mais j'en ai plusieurs, je pense.
Ah, vous pouvez en choisir deux ou trois, ça va.
Ben, j'ai des beaux souvenirs. Alors, ben d'abord, quand j'étais jeune comédienne, j'ai travaillé donc avec la scène nationale, et j'ai un très beau souvenir d'une grande dame du théâtre français qui s'appelait Maria Cazares. J'ai travaillé avec elle pendant un an, et c'est resté pour moi... vraiment une référence, un modèle, parce que c'était une dame qui en imposait, même si elle ne faisait qu'un mètre cinquante et quelques. C'était une dame qui avait une présence extraordinaire, beaucoup de charisme. Hein. Et elle était une des plus grandes tragédiennes françaises. Bon, elle était très connue. Et elle était avec moi, comme nous sommes là. C'est-à-dire, nous mangeons ensemble, nous discutions de tout. Elle était très, très simple.
Ça fait du bien.
Et voilà, ça fait du bien. Oui. C'est à ça qu'on reconnaît la vraie qualité chez un artiste. Pour moi, un artiste qui se met à la portée des autres et d'une jeune comédienne qui débute, c'est vachement bien, quoi. Il y avait aussi d'autres comédiens merveilleux, comme Jacques Alric. Il y avait Nadine Allary, qui était aussi une comédienne formidable, que j'aimais beaucoup. Nada Strancard, voilà, ça, tout d'un coup, elles me reviennent. Françoise Turiès, des filles formidables, quoi, que j'ai revues après, un petit peu, de temps en temps. Ça m'est arrivé de les voir sur Paris ou Avignon. C'est des très beaux moments. Après j'ai plein de souvenirs de jolis moments. Mais j'en ai plein, quoi, parce que c'est quand je suis arrivée dans le Jura, près de chez moi, il y avait un sentier incroyable. Je découvre, je vais me balader à 2 km, 3 km de chez moi, qui s'appelle le sentier de la Caborne. C'est à Saint-Imetière, très joli petit village avec une église magnifique qu'on voit sur tous les machins touristiques. Et là, ce petit sentier de la Caborne, je fais quelques pas et je dis à mon mari, oh là là, mais c'est extraordinaire cet endroit, moi je vois des lutins partout. Et du coup, j'ai créé dans cet endroit un spectacle avec des copains comédiens professionnels et les enfants du village. Et là, qui faisaient les lutins, les petites sorcières, et on racontait les légendes du Jura. Et c'était trop beau. Et ça, c'est pour moi, c'était magique. Pour les spectateurs, c'était magique. Et on l'a fait pendant plusieurs années.
Et là, in situ.
In situ. On était. Et moi, c'est là que j'ai créé un personnage de la... Parce que... Ici, dans le Jura, en tout cas, il y a énormément de légendes qui se rattachent au village. Donc, par exemple, Saint-Imetière, il y avait une légende qui était la légende de la fée bûcheronne. Cette fée bûcheronne, elle avait un panier. Dans son panier, elle avait des choses qu'elle offrait, des choses qui se mangeaient. Et puis surtout, quand les habitants du village ne se tenaient mal, c'est-à-dire qu'ils étaient méchants entre eux, elle frappait contre un arbre pour dire son désaccord. Et j'ai donc, alors comme mes collègues comédiens, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez faire comme personnage. Alors on a choisi des personnages et moi j'ai dit je vais faire la fée bûcheronne. Et cette fée bûcheronne, ben, je l'ai fait pendant 14 ans finalement. Et je l'ai fait dans des centaines de fois, je ne sais pas combien de fois, mais on n'a pas compté, j'ai jamais pu compter, mais je l'ai fait des centaines et des centaines de fois. Dans toutes les forêts du Jura, du Doubs, dans la Haute-Saône, dans l'Ain, en Saône-et-Loire, je l'ai fait partout, même en salle, mais je l'ai fait essentiellement en plein air, dans les forêts, quoi. Toute verte, j'étais habillée tout en vert, avec un grand chapeau vert, avec des pommes de pin, des feuilles, enfin, je le rénovais de temps en temps. Et voilà, alors les gens disaient « Oh, voilà Dame Nature !» Donc ça, c'est un très beau souvenir de travail, hein, parce que d'abord, j'ai beaucoup moins le trac quand je suis dehors que quand je suis dedans. Donc, je trouvais que c'était plus facile. La seule chose qui était plus délicate, c'était que j'étais seule. Parce qu'au départ, on l'a fait en groupe, et puis après, j'ai été sollicitée pour aller faire ce personnage à droite à gauche.
Ah, donc, vous étiez toute seule dans la forêt avec un public.
Et le public, tu savais, par exemple, les écoles venaient, les enfants, on leur disait, il y aura une surprise dans la forêt, si vous êtes gentils, nanani, nanana. Et alors, les enfants arrivaient dans la forêt, et tout d'un coup... Je parlais, j'étais très loin, tout en haut dans la forêt, caché derrière un arbre. Alors comme j'étais tout en vert, de toute façon, on ne voyait pas. Il fallait vraiment que j'avance près d'eux pour qu'ils réalisent qu'il y avait quelqu'un. Alors ils cherchaient qui leur parlait. Oh mais c'était trop sympa, j'avais adoré faire ça.
Et comment, il n'y a pas eu un moment après 14 ans où vous jouez le personnage, où de temps en temps, le personnage et vous, ça...
Mais les gens disaient, ah vous êtes la fée bûcheronne, c'est vous.
Oui, vous êtes devenu un peu le personnage à des moments, j'imagine. Que...
Oui. Non, mais des fois, j'y pense, je ne le joue plus depuis 2017. Mais des fois, j'y pense parce que j'ai des gestes, des réactions, par exemple, par rapport à la forêt, quand je suis quelque part, et j'ai des réactions de fée qui veut protéger tel arbre ou tel arbre. Parce que je racontais les légendes, et puis les sapins, etc. Et puis je racontais aussi qu'il y avait des lutins dans la forêt, tout ça, qu'il y avait du monde, qu'il habitait. Enfin voilà, c'était super, quoi. Un jour, j'étais au bord d'un lac, et puis j'étais en train de parler de la Vouivre. Et je vois, juste au bord... une vipère qui nage. Ah ben la voilà. La voilà, je leur dis, la voilà. Elle est là, la Vouivre. C'est extraordinaire, hein. Ou alors une fois, je leur dis, regardez, là, parce que quand j'avais les petits des écoles, primaires, maternelles, je les emmenais donc dans le sentier, et puis je les faisais s'arrêter, et je disais, chut, attention, ici, il y a des lutins qui habitent. Alors, c'est là. Alors, je montrais en chuchotant. Et les enfants, les institutrices me disaient, mais comment vous faites? Ils sont super silencieux, ils vous écoutent. Je dis, attendez, il y a des trucs. Il y a des trucs, et puis on leur donne envie, quoi. On leur donne envie d'écouter aussi, hein. Ça s'apprend, c'est un métier.
Et du coup, vous avez adopté le Jura. Vous êtes
Non, mais je suis tombée amoureuse du Jura en même temps. Hein. J'ai deux amours, c'est l'Île-Dieu et le Jura. Et quand j'étais gamine, je disais, quand je serai retraitée, je viendrai habiter l'Île-Dieu. Parce que j'avais déjà conscience qu'avec le métier que je faisais, que je faisais pas quand j'étais ado, mais que je voulais faire, je savais que je ne pourrais pas vivre sur une petite île comme ça de 9 kilomètres de long, hein, c'était pas possible. Donc j'en avais bien conscience, alors je disais quand je serai en retraite, mais ça fait 10 ans que je suis en retraite et je ne fais qu'y aller un peu en vacances.
Vous avez un petit pied-à-terre là-bas ?
Non, malheureusement, hein, si seulement, mais c'est tellement cher, c'est pas dans mes moyens, donc je loue un studio super, chez Marivonne, super.
Et vous pensez qu'un jour vous allez quitter le Jura pour y aller
Je pense pas. Parce que ce que je peux, c'est envisager d'y rester souvent, longtemps. Ça, c'est vraiment possible pour moi. Je l'ai fait une fois, je suis restée 6 mois sans sortir de l'île. Pas mal, hein?
Et vous n'avez pas eu le mal de la terre?
Ah non, pas du tout. Oh non, 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 quand je suis là-bas... De toute façon, quand je suis là-bas, je suis différente d'ici. Parce qu'ici, je suis toujours très active. Parce que je travaille encore et puis je fais beaucoup de bénévolat dans des associations, à la radio. Enfin, je fais plein de choses. Et là-bas, je ne fais pas grand-chose. Mais je peux rester des heures devant l'océan. Je m'assois, je regarde la mer.
Je trouve ça fou l'impact qu'une colonie a pu avoir sur votre vie.
Mais ce sont toujours, je constate des petits détails. Mais la colo, mais c'était génial. On adorait aller en colo. Je retrouve encore des personnes aujourd'hui qui étaient en colo avec moi. Mes frères et sœurs n'ont pas du tout suivi le chemin que moi j'ai suivi. Eux, ils sont fonctionnaires voilà, dans la préfecture, à l'hôpital, oui, dans les bureaux. Alors que je suis un peu comme le mouton noir, on va dire.
Alors que vous êtes l'aîné.
Alors que je suis l'aîné, oui.
C'est quand même c'est particulier.
Oui, je crois que c'est assez rare. Et c'est vrai que j'ai cette énergie-là, quoi, de m'engager. Moi, je suis engagée ici, là, derrière, là, en face de vous, là, vous voyez, le bâtiment, derrière le grand mur. J'y vais régulièrement.
Qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
Du culturel, tout ce qui touche à la culture. Je viens de passer l'été je suis allée 8 fois.
C'est donc
dans la prison, ouais. J'y vais régulièrement pour proposer des activités culturelles. Donc là, j'y étais avant-hier. Et j'ai fait un travail sur Bernard Clavel avec eux. Parce que depuis ici à Lons-le-Saunier, on a fêté cette année le centenaire de la naissance de Bernard Clavel. Il est né rue des Écoles. Et j'avais proposé, en partenariat avec la ville de Lons, de faire un spectacle. J'ai créé un spectacle, je suis allée dans les EHPAD pour lire du Clavel, ça marchait super bien. Les personnes âgées étaient très très heureuses d'écouter, de discuter de lui. Il y en a qui l'avaient rencontré, qui l'avaient connu. C'était chouette. Et puis, j'ai proposé de le faire aussi à la prison. Et là, à la prison, j'y suis allée 8 après-midi. Et avec des gars qui n'avaient jamais lu. Alors par exemple, il y en a un, il m'a dit... « Oh, mais moi, je suis incapable de lire. Je lis, si j'arrive à lire 20 pages, vous savez, je lis pas. » Bon. Et puis, je leur dis « Mais tu veux lire un petit paragraphe ?» Et tous ceux qui ont participé ont toujours accepté avec plaisir de lire des extraits des bouquins qu'ils piochaient, parce que j'amenais une petite montagne de livres de Clavel. Et ils ont pioché comme ça. Et ils ont lu, mais très sympa, quoi. Heureux de le faire. Et puis, j'avais écrit des adaptations de scènes de ces bouquins. Alors du coup, ils ont joué, mais vachement sympa aussi, quoi. Ils n'hésitaient pas. Ils étaient intéressés. Ça leur plaisait.
Et c'est marrant, une prison en centre-ville comme ça.
Ah ben tant mieux.
C'est génial.
Ben oui, c'est rudement bien, parce que vous savez, la plupart des prisons aujourd'hui, elles sont à l'extérieur des villes, toutes les prisons nouvelles. Elles sont, alors il y a plusieurs choses hein, qui sont en dehors des villes. Il y a les centres, les déchetteries, il y a les déchetteries, les abattoirs, les prisons. C'est terrible. Hein. Et là, on a échappé à la construction d'une prison à l'extérieur. Ceci étant, moi j'étais pas contre le fait qu'il y ait une prison ailleurs, une autre prison construite plus moderne et plus sur le plan, enfin, plus, qui permettent, qui donnent plus de
d'hygiène, etc.
d'hygiène, mais qui permettent aussi aux personnes détenues d'avoir des plus d'activités à l'intérieur de la prison. Parce qu'ici, c'est quand même très limité. Il n'y a pas une très grande salle. On ne peut pas être plus de 19 dans la salle. Ce n'est pas évident. Si j'organise un spectacle, ça me limite le nombre de personnes qui peuvent y assister. Parce que des fois, on fait des concerts, on fait venir les rendez-vous de l'aventure, on fait des ateliers avec le Moulin de Brennan, enfin, plein de choses comme ça.
Et vous vous dites qu'un jour, vous allez vous arrêter ?
De le faire, ça ?
De faire ça, les 5000 trucs que vous faites.
Là, j'ai décidé d'arrêter déjà une chose. C'est que jusqu'à présent, comme j'habite dans un endroit un peu pas ordinaire, puisque j'habite un éco-hameau, qui était un éco-hameau aujourd'hui, il est divisé en 4 propriétés et c'est plus l'ambiance de vie en commun, hein, c'est pas du tout ça. Mais j'accueillais des spectacles, par exemple, chez moi. Des copains en résidence. Alors ça, j'ai décidé que j'arrêtais de le faire, mais ce qui ne m'empêche pas, hier soir, d'avoir prévu un spectacle ici, en ville. Voilà, je le fais ailleurs, quoi, mais je ne l'ai pas fait.
Chère Roselyne, chère Fée Bûcheronne, merci pour cet échange, ces couleurs que tu as mis dans ma tête et ces envies de randonner dans le Jura. Ta vie, ancrée dans la liberté, l'engagement et l'amour, m'a fait du bien à raconter. À très vite, ici ou ailleurs.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.